Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. Ce soir, faut-il renégocier le CETA ? Donald Trump a-t-il eu Justin Trudeau à l'usure ? Toujours est-il que le président américain a eu gain de cause dimanche dernier en obtenant la réécriture de l'ALENA, l'accord de libre-échange nord-américain entre les États-Unis, le Canada et le Mexique. Trump en avait fait une question de principe. Le Premier ministre canadien a fini par accepter un nouveau texte censé être plus favorable à son voisin. Or voilà qui pourrait donner des idées, voire de l'espoir à celles et ceux qui, en Europe, contestent cet autre accord commercial avec le Canada, le CETA. Le CETA, Comprehensive Economic and Trade Agreement, a été signé en octobre 2016, avant d'être adopté par le Parlement européen en février 2017. Il y a un an, il entrait en vigueur, mais une entrée en vigueur partielle, dans l'attente de sa ratification par l'ensemble des parlements nationaux. Alors, dans les milieux économiques, on se dit satisfait des premiers résultats, davantage d'échanges commerciaux, c'est bien l'objet d'un tel accord, mais en l'état, le CETA pose problème du fait de sa compatibilité insuffisante avec l'accord de Paris sur le climat. Le gouvernement français a d'ailleurs, en octobre 2017, présenté un plan d'action pour renforcer cette compatibilité. Mais est-ce suffisant au regard des problématiques posées par cet accord de libre-échange de nouvelle génération ? Alors, faut-il renégocier le CETA ? C'est la discussion du soir en compagnie de trois invités. Geneviève Bastide-Burdeau, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeure émérite de droit international à Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Membre de la commission, vous avez été membre de la commission d'évaluation de l'impact du CETA qui a remis son rapport au Premier ministre. C'était en septembre 2017. C'est suite à ce rapport qu'il y a eu un plan d'action gouvernemental qui a été présenté. Pour discuter avec vous, Emmanuel Buteau, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes la déléguée générale de l'Union des industries textiles et responsable du groupe de travail sur le CETA au MEDEF. Et puis troisième invité, Amélie Cannon, bonsoir.
Bonsoir.
Membre de l'organisation ATTAC, vous en avez été la déléguée générale. Vous travaillez sur les questions d'économie internationale et vous menez la campagne en France contre le TAFTA, autre accord de libre-échange en discussion toujours entre l'Union européenne et les États-Unis. Mais vous suivez évidemment de près tout ce qui concerne le CETA, qui est donc entré partiellement en vigueur il y a un an, sans avoir été validé par l'ensemble des parlements nationaux. Moi, j'aimerais d'abord savoir, Geneviève Bastide-Burdeau, si c'est une anomalie ou bien si c'est quelque chose de relativement classique dans les accords de libre-échange, c'est-à-dire on applique d'abord, on ratifie ensuite.
Dire que c'est classique, non. Ce qui s'est passé, c'est que la commission de l'Union européenne pensait que seule l'Union européenne devait ratifier cet accord. Et puis, il y a eu un élément inattendu qui est intervenu, c'est que l'accord avec Singapour, l'accord entre l'Union européenne et Singapour, qui ressemble beaucoup à l'accord CETA, a été soumis à la Cour de justice de l'Union européenne pour savoir si seule l'Union européenne pouvait ratifier ou s'il fallait faire appel aux États. Et la Cour de justice a considéré qu'il y avait certains points sur lesquels les États devaient donner leur ratification. Alors, comme les textes sont quand même assez voisins, eh bien, on en a déduit que pour le CETA, le même exercice était nécessaire, si bien que le CETA est entré provisoirement en vigueur pour ce qui concerne les clauses commerciales, les droits de douane, les échanges de marchandises, de services, etc. Et il y a deux points, dont notamment la question du tribunal pour régler les différends relatifs aux investissements qui doit être soumis à l'approbation des parlements nationaux.
On verra justement dans un instant si ces points qui ne sont pas encore, disons, appliqués parce qu'en attente de la ratification des parlements nationaux peuvent faire l'objet encore aujourd'hui de négociations. Mais pour poursuivre notre premier tour de table, Amélie Cannon et Emmanuel Buteau, est-ce que le fait que cet accord soit donc entré en vigueur sans avoir été ratifié par les parlements nationaux, ce n'est pas le cas du Parlement européen qui l'a fait il y a déjà longtemps, est-ce que ça pose problème, Amélie Cannon ?
Ça pose un certain nombre. Je dirais que le fait que le Parlement européen l'ait ratifié est déjà une chose importante, et c'est quelque chose qui est relativement, qui est nouveau depuis la réforme des règles relatives aux aux décisions commerciales à l'Union européenne et le traité de Lisbonne. Donc c'est déjà quelque chose de mieux qu'aucune ratification du tout et aucun débat démocratique. La difficulté démocratique, je pense, elle n'est pas tant dans le fait, je dirais, que les parlements nationaux ne puissent pas ratifier des volets qui sont après tout considérés comme de compétences européenne, et on peut discuter les traités, mais néanmoins c'est comme ça qu'ils sont faits, donc on est obligé de s'y soumettre. Par contre, il est vrai que tout le processus de négociation et de construction de ces traités, bien en amont, lui, est extrêmement peu démocratique et ne répond pas du tout aux fondamentaux, je dirais, de la transparence minimale, du débat démocratique qu'il faudrait construire autour, en particulier avec les parlements nationaux, avant, je dirais, la ratification, de sorte que la décision des États au Conseil s'agissant des traités soient informés par une vraie réflexion du Parlement et répondent, soient responsables vis-à-vis de ce Parlement. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout aujourd'hui. Le gouvernement décide tout seul de ce qu'il va dire au Conseil et il est trop tard, je dirais, une fois que cette décision est annoncée.
Est-ce que c'est un avis que vous partagez au groupe de travail sur le CETA au MEDEF, Emmanuel Buteau ?
En fait, au MEDEF, on a un comité de suivi de tous les accords de politique commerciale, de tous les accords bilatéraux. Donc on a suivi en son temps le TTIP, le TAFTA, on a suivi le CETA, on a suivi l'accord UE Japon, et on suit également en ce moment les sujets multilatéraux, c'est-à-dire comment réformer, comment moderniser l'OMC. Donc c'est un champ, parce que tous ces sujets sont pour partie liés. Donc il faut vraiment avoir une vision globale de comment est articulée la politique commerciale de l'Union européenne, quelle est la répartition des compétences entre la Commission européenne, comme ça vient d'être dit, sur toute la partie compétences exclusives qui concerne vraiment les articles relatifs à la politique commerciale, et puis ce qui relève des compétences dites mixtes, c'est-à-dire partagé avec les États membres. Donc votre question c'était, est-ce qu'il est naturel, est-ce que c'est pas finalement un peu bizarre que l'accord CETA soit entré en vigueur un an après alors que l'ensemble des parlements ne l'a pas ratifié? C'est pas du tout bizarre, c'est absolument normal sur la partie qui est de la compétence exclusive de l'Union européenne, c'est-à-dire toute la partie politique commerciale qui est évidemment la partie économiquement la plus impactante pour les entreprises, qu'elles soient grandes ou petites. Alors après, je voudrais rebondir sur le sujet de la transparence, parce que c'est une doléance assez classique qu'on entend beaucoup. Première doléance, il n'y a pas assez de transparence et de débat démocratique au moment de l'élaboration du mandat de négociation par la Commission. Deuxièmement, il n'y a pas assez de transparence au niveau des États membres. Donc sur la partie transparence du mandat, on peut quand même rappeler que beaucoup de progrès ont été faits, notamment par la commissaire Malmström, on pourra donner des exemples tout à l'heure. Quant à la partie transparence, accompagnement des débats nationaux, les parlements nationaux jouent leur rôle, une certaine commission de suivi des accords de politique commerciale animée par le ministre du Commerce le fait également, et il y a d'autres mécanismes de consultation de la société civile, on y reviendra.
Qui sont juste d'un mot. Satisfaisant, parce que ce sont des réunions auxquelles moi j'ai participé.
Alors Canon, mais juste d'un mot, est-ce que vous considérez qu'il y a quand même des progrès qui ont été faits en matière de transparence dans la négociation de ces accords de libre-échange?
Ce que fait aujourd'hui Madame Malmström, et qui n'était pas le cas,
qui est la commissaire européenne
au commerce, et que son prédécesseur ne faisait pas, c'est effectivement de publier des mandats de négociation bien après que les négociations aient commencé, et sous la pression en général des citoyens et de la société civile qui trouvent que ça fait déjà 3 ans qu'on aurait bien dû voir ces mandats. Donc on ne peut pas vraiment considérer que c'est un progrès colossal, je dirais.
Restons encore un instant sur le processus politique. Donc il y a des parlements nationaux qui vont devoir se prononcer sur la ratification de cet accord CETA. Geneviève Bastide-Burdeau, pardonnez-moi, je décharpais votre nom. Alors la France, on ne sait pas quand est-ce que ça aura lieu. Ça devait être programmé cet automne. Il y a de grandes probabilités pour que ce soit après les élections européennes. Il y a une nouvelle majorité qui vient d'arriver en Italie où ça n'est pas encore ratifié. Et le gouvernement italien a assuré cet été que la nouvelle majorité parlementaire rejetterait cet accord. Si c'est le cas, si le Parlement italien rejette l'accord, est-ce que ça veut dire que l'accord devient caduc ?
Logiquement, oui, parce que la partie qui n'est pas ratifiée par les parlements nationaux ne peut pas être dissociée du reste de l'accord. Alors maintenant, reste à savoir les points sur lesquels il y a compétence nationale sont des points quand même très limités. C'est d'une part le contentieux, enfin le mode de règlement du contentieux entre investisseurs et État d'accueil de l'investissement, ou Union européenne, dans la mesure où elle accueille l'investissement. Et c'est la question des investissements de portefeuille. Bon. Donc ce sont deux points qui sont, à mon avis, dissociables. Donc on peut très bien imaginer que s'il y a rejet par un Parlement, par exemple le Parlement italien, eh bien, il y ait qu'on trouve une modalité pour maintenir ce qui est déjà en place sans refaire complètement le processus.
Alors, Emmanuel Buteau, vous qui, au MEDEF, êtes plutôt favorable à cet accord, est-ce que vous craignez justement qu'il y ait cette décision du Parlement italien ? Et je poserai la question, mais d'une autre façon, forcément, Amélie Cannon, d'attaque. Est-ce que vous espérez, est-ce que vous comptez justement sur cette non-ratification du traité ? Je commence par vous, Emmanuel Buteau.
Alors, écoutez, nous, d'abord, on voudrait saluer les résultats économiques positifs de cet accord. C'est-à-dire qu'un an après, on a une augmentation des exportations de l'Union européenne vers le Canada de 7%, qu'elle est très forte dans certains secteurs comme la chimie, pharmacie, plus 20%, dans le domaine de la céramique, 43%, les vins, vins mousseux, qui nous concernent beaucoup en France, plus 11%. Et quand on regarde les performances à l'exportation vers le Canada des entreprises françaises, une fois de plus, hein, petites et grandes, tous secteurs, on voit qu'on est également sur la même tendance, on est légèrement en dessous, avec plus 5,3% d'augmentation des exportations françaises vers le Canada en un an. Donc on est sur un trend positif, c'est notamment le cas pour les voitures, pour la chimie, mais aussi pour les fromages, sans parler du textile habillement, bien sûr, sans oublier le textile habillement qui est cher à mon cœur. Donc, déjà, ce qu'on peut dire, c'est que les résultats économiques sont positifs. Est-ce qu'on est particulièrement inquiet pour la suite du processus de ratification ? Écoutez, non, nous ne sommes pas inquiets. Il y a aujourd'hui 12 États membres qui ont ratifié, y compris la Belgique, alors qu'un certain nombre de questions se posaient, puisqu'en plus en Belgique,
on est dans une situation... Ce sont aussi les parlements régionaux.
Voilà, exactement, on se souvient de Monsieur Magnette, etc. Donc la Belgique, semble-t-il, a ratifié. Donc par rapport aux propos qui ont été tenus par le gouvernement italien, je pense que les milieux économiques italiens, la Confindustria, quand on voit la force de l'Italie à l'exportation, je pense que c'est pas aussi certain que vous pouvez le présenter.
Amélie Cannon.
Vous vous doutez bien que c'est pas moi qui vais vous dire que je m'en remets à l'alliance au gouvernement en Italie en ce moment, parce que ça n'est vraiment, vraiment pas l'approche de critique du commerce international que nous défendons, nous, qui, dans le cas de l'Italie, est une critique excessivement nationaliste et qui ne conçoit pas d'alternative progressiste au commerce international actuel. Je pense que ce qui est plus intéressant, à mon avis, c'est que vous mentionniez la Belgique. Il y a quand même aujourd'hui, en Autriche et en Belgique, une sorte de point d'interrogation qui reste ouvert autour de l'avis de la Cour européenne de justice sur la compatibilité de l'ISDS avec les traités, de ce volet d'arbitrage sur l'investissement avec les traités qu'on attend toujours. Et la Belgique, la Wallonie, à l'intérieur de la Fédération belge, et le président autrichien ont bien dit que leur ratification était conditionnée à l'avis de la Cour de justice qui nous dirait si cette compatibilité était réelle ou non. Et que dans le cas où la Cour de justice n'était pas formelle, à ce moment-là, ils pouvaient tout à fait revenir sur leur ratification.
Ça, c'est donc l'option de la non-ratification pour ATTAC, c'est quelque chose en tout cas qui vous semble être porteur d'éventuels espoirs pour que le CETA ne soit plus...
En tous les cas, moi j'attends l'avis de la Cour européenne de justice sur la compatibilité de cet arbitrage avec les traités européens. Et de là, on verra bien comment on se réorganise. Je sais que nos équivalents, nos homologues en Italie, associations, syndicats, etc. se battent aussi contre le traité, en portant une critique claire aussi de la manière dont leur gouvernement le fait. On verra ce qui...
Geneviève Baptiste de Burdeau, est-ce que les parlements nationaux ont aujourd'hui la capacité, par rapport à ce qui va être soumis, de négocier, d'adapter le traité, ou bien est-ce que la seule alternative, c'est soit vous ratifiez, soit vous ne ratifiez pas ?
Bon, ça c'est oui ou non. C'est comme dans tous les traités internationaux.
Donc il n'y a pas de marge de négociation aujourd'hui au niveau national.
Enfin, les traités. Ça, c'est la règle générale. Hein. Tous les traités internationaux sont négociés par l'exécutif. Et ensuite, la seule possibilité pour le Parlement, c'est de refuser d'autoriser le président à ratifier. Parce que c'est le président ou éventuellement le Premier ministre qui ratifie.
Mais alors, expliquez-moi à quoi pourrait servir le veto climatique proposé par Nicolas Hulot lorsqu'il était encore ministre de l'écologie et de la transition écologique. Veto climatique, alors qu'il lui avait été inspiré, si j'ai bien compris, par une des préconisations de la commission d'évaluation du CETA à laquelle vous participiez. C'est-à-dire, est-ce que ça veut dire que la France, là, avait peut-être les moyens, justement, d'imposer cette modification au traité de libre-échange alors que celui-ci a déjà été ratifié par le Parlement européen?
Alors,
préciser ce que c'est que ce veto climatique.
Oui, alors ce veto climatique, c'est l'idée que si un investisseur se plaint d'une nouvelle réglementation environnementale qui porte atteinte gravement à ses intérêts, mais là, il faudrait aussi que ce soit compatible avec le traité, parce que le traité dit bien que les États ont parfaitement le droit de modifier leur réglementation et que le seul fait qu'une réglementation pèse sur l'équilibre financier d'un investissement n'est pas suffisant pour entraîner la responsabilité de l'État défendeur.
Imaginons qu'il y a un investisseur qui conteste
qui dirait qu'une réglementation environnementale est totalement déséquilibrée, arbitraire, etc. À ce moment-là, il pourrait y avoir un accord entre le Canada et l'Union européenne pour dire que l'affaire ne peut pas être soumise à l'arbitrage.
Mais ça n'existe pas aujourd'hui.
Non, ça n'existe pas.
Donc ce veto climatique, veut bien dire qu'il y aurait la nécessité de le renégocier pour qu'il existe, non ?
Oui, alors à moins que on trouve un moyen par la coopération entre les deux parties de l'introduire. Ça existe en ce qui concerne la réglementation prudentielle financière. Si un investisseur, je ne sais pas, une banque, se plaint du fait que la réglementation prudentielle est modifiée de manière complètement arbitraire, là, il pourrait y avoir intervention du Canada et de l'Union européenne en disant stop, on arrête, on maintient la réglementation et vous n'avez pas droit à contester et à mettre en cause la responsabilité, par exemple, de l'Union européenne ou du Canada à raison de cette réglementation. Donc, ça serait la même idée.
D'accord. Amélie Cannon, sur cette question du veto climatique.
Je pense qu'il y a plusieurs questions dans celles que vous posez. D'abord, est-ce que c'est une bonne réponse? Cette idée de veto climatique, c'est pas entièrement satisfaisant, mais enfin, ce serait quand même mieux que rien, tel que Nicolas Hulot l'avait proposé. Ensuite, est-ce que c'est possible dans le cadre actuel d'introduire comme ça une nouvelle dimension dans le texte qui a été agréé et qui a été ratifié? Je vois pas d'où on pourrait changer aujourd'hui le traité. En tous les cas, le renégocier, ça me paraît indispensable si on veut ajouter des dimensions de cette importance-là. Troisièmement, est-ce que le président de la République ou l'exécutif français, en tout cas, est en capacité d'imposer ça aux 28 et au Canada? Ça, c'est encore un autre problème, je veux dire, là-dessus. Je crois qu'il faudrait y regarder de près. Moi, je crois pas, en fait. Dans l'état actuel des rapports de force, disons, à l'intérieur de la Commission, je pense que c'est pas possible. Donc, il y a quand même une gradation de problèmes là qui nous amène à conclure que si c'était, en tous les cas, au départ, une idée qui pouvait permettre d'atténuer les risques en termes stricto sensu climat, même si ça répondait pas, c'était pas satisfaisant, on est loin de la faisabilité qui est pas là du tout. C'est hors d'atteinte aujourd'hui.
Emmanuel Buteau, je reviens vers vous après.
Ce que je voudrais dire simplement, c'est que j'ai un peu le sentiment qu'on joue à se faire peur.
Exactement.
On joue à se faire peur, on alimente des craintes qui sont infondées, on fait peur aux citoyens.
C'est incroyable.
Or, on n'a pas, il faut bien réfléchir aux conséquences de cette peur. Qu'est-ce que ça veut dire un veto climatique? On a d'abord, il faut regarder le calendrier des négociations. Comme vous l'avez dit, le CETA, il a été conclu en fait en octobre 2016 et il est entré en vigueur un an après. Ça veut dire qu'en termes de timing, par rapport au protocole de Paris, par rapport à l'accord de Paris, on ne peut pas reprocher, je veux dire, aux négociateurs de ne pas avoir inclus tel quel l'accord de Paris. Deuxièmement, a été négocié, et vous le savez, parce que beaucoup de questions ont été posées par des États membres et des parties prenantes sur l'ensemble des aspects en fait sociaux, environnementaux, etc. Et a été négocié en même temps que ce CETA un instrument interprétatif commun concernant ce CETA qui a été approuvé et qui donne un certain nombre de garanties juridiques extrêmement fortes aux États membres. Notamment, il y est dit que ce CETA préserve la capacité de l'Union européenne, de ses États membres ainsi que du Canada d'appliquer en fait, de modifier leurs propres lois afin de réglementer en gros les activités économique dans l'intérêt public, protection, promotion de la santé publique, des services sociaux, la sécurité et l'environnement.
Donc cette idée de veto climatique,
en plus,
ça sert à quoi alors d'avoir proposé ce veto-là ?
Le Canada est signataire, à ma connaissance, des
Emmanuel
accords
Béteau,
de Paris,
ça sert
et
à...
on voit
Emmanuel
au contraire...
Béteau, ça sert à quoi, du coup, d'avoir proposé ce veto climatique ? Ça veut dire que pour vous, c'est quelque chose qui était juste de l'affichage, mais qui, de toute manière, était déjà...
Il y a déjà suffisamment de protection avec l'instrument interprétatif. Deuxièmement, le Canada est signataire.
Et dans le texte lui-même. Parce que le texte lui-même dit qu'il est entendu que le simple fait qu'une partie exerce son droit de réglementer, notamment par la modification de sa législation, d'une manière qui a des effets défavorables sur un investissement, ou qui interfère avec les attentes d'un investisseur, y compris ses attentes de profit, ne constitue pas une violation d'une obligation prévue par le traité. Donc c'est déjà là.
Mais si je ne m'abuse, on avait... des dispositions, et y compris dans la notice interprétative qui avait été conçue à l'ALENA, qui avait été ajoutée à l'ALENA après la négociation du traité en 2001, parce que le traité date de 1994. En 2001, on a fait une notice d'interprétation précisément pour solutionner ce type de difficulté et ce que les Canadiens, les Américains estimaient comme risque beaucoup trop important de poursuite par des investisseurs. Et en fait, on a vu que ça n'avait rien empêché du tout après. Alors quand vous parlez de risques qui n'existent pas autour du CETA, je suis désolée de vous dire que le CETA, il n'était même pas encore opérationnel et actif, qu'on en voyait déjà les ravages autour des questions environnementales en particulier, puisque nous, on sait, on a des preuves, et ça n'a jamais été démenti, que c'est précisément le cadre ouvert par ce traité qui a fait que la directive sur la qualité des carburants a été amoindrie dans son contenu. On sait que c'est en utilisant, en manipulant la perspective du CETA, que des lobbies pétroliers canadiens ont fait pression sur la loi Hulot, enfin sur le contenu de la loi Hulot, pas plus tard qu'en fin d'année dernière. C'est avéré par des documents qui ont fuité dans le cadre de l'accès aux documents publics. Donc, si vous voulez, sans même que le traité existe, on arrive avec ce type de conséquences. Imaginez-vous, avec un traité existant et opérationnel, les mécanismes de coopération réglementaire et de façon plus générale, ce qu'implique le libre-échange pour l'environnement et pour le climat, je suis désolée, mais c'est irresponsable de dire aujourd'hui qu'un traité de ce niveau ne comporte pas de risques environnementaux.
Mais c'est risque d'ailleurs. Alors attendez,
pour ne plus polluer,
alors,
on peut tous dire en autarcie.
Juste qu'on sache qui parle, Emmanuel
Béteau. C'est absolument ridicule, madame, de nous accuser de tenir ce type d'argumentation. Ça n'est pas de votre logique.
Non, si vous parlez toutes les trois en même temps, on ne vous entendra pas.
Vraiment.
Geneviève Baptiste Bordeaux, moi j'ai du mal en fait à comprendre quelque chose. C'est-à-dire que quand on regarde ce qu'ont été les conclusions de cette commission d'évaluation du CETA à laquelle vous avez participé. Alors je ne sais pas s'il y a eu débat au sein de la commission, mais sur l'impact environnemental de ce traité de libre-échange, il y avait quand même des craintes qui étaient assez fortes. Par exemple, on pouvait y lire, en l'état, ce traité est incompatible avec l'accord de Paris, il va entraîner une hausse des émissions de gaz à effet de serre. Est-ce que ça veut dire que pour vous, un an après, ces risques-là, ces craintes-là n'existent plus ?
Alors, je crois qu'il faut distinguer deux domaines. Le domaine de l'investissement et des risques qu'un investisseur mette en cause une modification de la réglementation. Je crois que là, le traité est bien bordé et complété par l'instrument interprétatif. Donc, sur la question de l'investissement, ça, c'est pas le problème.
D'accord.
En revanche, en ce qui concerne les échanges de marchandises, là, les choses sont différentes. Il est évident que si on augmente le commerce, on augmente mécaniquement le nombre des bateaux qui traversent l'Atlantique. Or, on sait que les bateaux qui traversent l'Atlantique, que les navires de commerce utilisent du pétrole de très mauvaise qualité et qui est très polluant. Donc ça, c'est un fait. Ça, on peut pas le nier. Donc ça, c'est basique, hein. Mais en plus, c'est vrai que un des objectifs du CETA, c'est d'essayer de coordonner l'évolution des normes relatives aux produits. Et c'est là où il peut y avoir des difficultés, c'est-à-dire qu'il peut y avoir dans cette coopération pour définir les normes relatives aux produits des interventions de lobby, c'est tout à fait possible.
Emmanuel Buteau, pour que le CETA, comme n'importe quel autre accord commercial, soit un succès, accord de libre-échange, il faut qu'il y ait une augmentation des échanges commerciaux. Vous dites que, vous justement, dans le bilan que vous faites après un an après son entrée en vigueur, que c'est ce qui se passe. S'il y a augmentation des échanges commerciaux, comme le disait Geneviève Baptiste Burdeau, il y a forcément augmentation des émissions de gaz à effet de serre. Est-ce que vous dites, du coup, oui, on est obligé d'en passer par là, mais le jeu en vaut la chandelle, parce que ce qui est le plus important, c'est d'avoir davantage de croissance, davantage d'échanges, peut-être aussi des avantages pour les consommateurs, puisque on nous annonce aussi que ces accords-là permettent de faire baisser les prix, puisqu'il y a une quasi-extinction des tarifs douaniers. Est-ce que c'est comme ça que vous répondez à la question ou...
En fait, il est clair qu'il y a une augmentation mécanique des émissions de gaz à effet de serre à partir du moment où il y a intensification des flux commerciaux liés au transport. Donc ça, c'est un fait. Maintenant, comment intégrer la logique des accords commerciaux qui résonnaient sur une intensification des flux avec la lutte contre le changement climatique? C'est un sujet extrêmement nouveau, que personne ne sait exactement comment traiter. Il y a un certain nombre d'idées qui sont débattues en ce moment même à Genève dans le cadre des workshops du Forum public de l'OMC. Il y a des idées, par exemple, sur la compensation, mesurer ces émissions supplémentaires qui n'auraient pas eu lieu en l'absence de l'accord, les évaluer et ensuite prévoir des mécanismes de compensation. D'accord ? Ensuite, il ne faut pas oublier non plus le rôle du progrès technologique, c'est-à-dire que comme tous les parties signataires, en l'occurrence, ont toutes signé l'accord de Paris. Donc ça veut dire que derrière, il y a des procédés technologiques, il y a des entreprises qui sont prêtes à investir. Et donc ça veut dire qu'on peut aussi imaginer une dynamique vertueuse d'investissement au service de la réduction des gaz à effet de serre, y compris, par exemple, entre des chaînes de valeur qui seraient entre le Canada et l'Union européenne.
Sachant donc, que les industries européennes qui en profitent le plus aujourd'hui, enfin et même françaises, je crois, c'est ce que j'ai vu, semble-t-il, dans votre communiqué, c'est les exportations de voitures et le secteur de la chimie. Alors bon, en tout cas, en matière, on va dire, de compensation et d'environnement, ce ne sont pas à ces industries qu'on pense en premier, justement, permettre justement de lutter contre le réchauffement climatique.
Enfin, c'est-à-dire... De toute façon, pour l'instant, il n'y a pas cette idée d'un mécanisme de compensation. C'est quelque chose de nouveau. On est à des stades très préliminaires de réflexion. Et en plus, ça ne pourrait se dérouler qu'à une échelle multilatérale, parce que ce qui vaut pour le Canada va valoir évidemment pour le Japon et pourquoi pas après-demain avec le Mercosur. Donc en réalité, ce sont des problématiques tout à fait nouvelles qui doivent être traitées au niveau multilatéral avec la contribution de toutes les parties privées qui ont montré qu'elles tenaient leurs engagements et qu'elles étaient des acteurs, les entreprises, de la réduction de gaz à effet de serre. Comment pourrait-on articuler cette lutte si les entreprises n'y participaient pas ?
Amélie Cannon, est-ce que cette piste des mécanismes de compensation vous semble intéressante ? Ou bien est-ce que vous dites, non, ce qui pose problème, ce sont les accords de libre-échange en général, parce que ça augmente les échanges commerciaux et il faut au contraire les détricoter pour peut-être justement diminuer ces échanges et donc de manière mécanique aussi, c'est-à-dire diminuer les émissions de gaz à effet de serre.
Vous savez peut-être que le GIEC s'apprête à sortir un rapport là la semaine prochaine qui explique qu'il nous reste extrêmement peu de temps pour agir sur toutes les sources d'émissions de gaz à effet de serre aujourd'hui parce qu'il y a une urgence absolument capitale si l'on veut rester dans des limites supportables par l'humanité en termes de réchauffement climatique. Donc je pense que oui, le libre-échange dans cette mesure-là n'est pas la priorité des politiques publiques. Et puisque madame vous dites que vous avez réussi à accroître de 7% le volume des exportations de l'Europe vers le Canada, j'aimerais savoir 7% d'exportation en plus, en quoi ça se traduit en termes d'emploi, de qualité, en termes de qualité de vie, en termes de protection de nos environnements, alors que vous dites que vous vendez visiblement davantage de produits qui sont par ailleurs fabriqués au Canada et qu'on n'a pas nécessairement besoin de d'envoyer de l'autre côté de l'Atlantique parce que ils pourraient pas se satisfaire, enfin les produire eux-mêmes. Donc ça me paraît quand même un peu discutable sur le plan du modèle, si vous voulez. La question, elle n'est pas est-ce qu'on bannit le commerce ou non. Là, et bien entendu qu'il faut penser les questions de régulation au plan multilatéral. Ça va de soi, c'est toujours mieux qu'au plan bilatéral, et ça, on l'a toujours dit également. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est de repenser le commerce dans une vision qui est compatible avec cette urgence climatique et environnementale. Et pour nous, ça veut dire restreindre ce commerce à des domaines ou des secteurs qui sont véritablement complémentaires des économies locales et qui ont une valeur ajoutée pour les ménages, pour les salariés, pour le bien-être et l'intérêt général. Et là, ce que vous décrivez, ça n'est pas ça.
Emmanuel Buteau.
Alors en fait, je rappelle juste un chiffre, c'est le déficit de la balance commerciale française en 2017, 62 milliards d'euros. 62 milliards d'euros de déficit, ça veut dire que, me semble-t-il, une des priorités macroéconomiques pour la France, c'est de redresser cette situation, d'exporter plus, je ne sais pas si elle peut importer moins. Donc, profiter des accords de libre-échange sur des marchés solvables. Je rappelle que le revenu par habitant au Canada, c'est à peu près 44 000 $ canadiens par an, donc c'est un marché étroit, je veux dire en termes de population, immense dans son territoire, un marché avec un pouvoir d'achat élevé, donc qui est parfaitement adapté à la sophistication des biens et des services qu'on produit en Europe. C'est pas la même chose de vendre au Canada que de vendre au Vietnam. Donc il y a évidemment un intérêt économique pour nos entreprises à trouver des relais de croissance. Le marché français est trop limité, les marchés de l'Union européenne sont déjà bien connus. Donc évidemment, il faut conquérir le monde, notamment pour les PME, et il faut vendre nos biens et services sur des marchés solvables qui s'ouvrent. Et après le Canada, il y aura le Japon, et j'espère que les progressions seront aussi positives.
L'impact sur les milieux économiques, Geneviève Bastide-Burdeau, ça faisait partie de votre travail dans la commission d'évaluation du CETA ?
C'était important. Alors ce que nous avons dit, c'est que nous n'avions pas de données économiques fiables qui permettaient de savoir quel serait l'impact du CETA. Enfin bon, c'était très très difficile d'évaluer ça à l'avance.
La Commission européenne prédit 25% d'augmentation des échanges commerciaux entre l'Union européenne et le Canada.
Oui, mais les économistes qui faisaient partie de la commission étaient assez sceptiques sur les bases de cette évaluation. Il y a un secteur dont nous n'avons pas parlé, qui est le secteur de l'agriculture. Et ça, c'est très important. Et la consultation qui avait été faite par le gouvernement français auprès de cette commission concernait l'impact sur l'environnement, mais aussi sur la santé. Et la question de l'agriculture est une question qui nous a beaucoup occupés. Nous avons auditionné les producteurs européens. Évidemment, il y a une grande disparité des conditions de production, notamment pour le bétail, par exemple, entre le Canada et l'Europe. Il y a des préférences culturelles qui ne sont pas les mêmes. En Europe, les hormones et le traitement du bétail aux antibiotiques n'est pas admis par l'opinion publique.
Alors, et ça, le CETA, justement, permet de se prémunir de ce genre de produits sur le marché européen.
C'est un point qui a été examiné, et les importations de viande, par exemple, du Canada, sur des importations qui sont fondées sur des contingents de viande non traitée aux hormones ou aux antibiotiques. Et il y a eu des vérifications, et dans le tableau de suivi du plan d'action du gouvernement sur le CETA, qui remonte, le dernier tableau de suivi remonte au 20 septembre, on indique qu'il y a eu des inspections sur place pour vérifier que ce point était suivi.
Est-ce que vous diriez sur cette question précise, Emmanuel Buteau, que là encore on cherche à se faire peur?
En substance, oui. Et je voudrais en fait valoriser aussi ce qui s'est passé en France, parce que c'est pas le cas dans d'autres États membres. Nous, on a fait une audition au Comité économique et social européen auquel j'appartiens le 14 juin sur la question justement de transparence, appropriation démocratique des accords de libre-échange. Et en fait, on s'est rendu compte que la France est particulièrement exemplaire avec son comité de suivi de la politique commerciale, avec ce plan d'action de suivi du CETA qui permet en plus d'irriguer les différents comités bilatéraux Union européenne-Canada. C'est pas du tout le cas dans la plupart des États membres. Dans la plupart des États membres, il n'y a même pas eu d'information, de débat préalable avec par exemple la Commission des affaires européennes ou affaires étrangères sur le contenu du traité et les engagements. Donc je pense qu'on fait beaucoup de reproches à la Commission européenne qui en réalité devrait être adressée aux États membres qui ne font pas leur job en interne. La France le fait, c'est tout à son honneur.
L'agriculture européenne face au CETA américain.
C'est un autre sujet sur lequel on pourrait disserter longtemps, mais moi je ne suis jamais allée dans aucune de ces réunions sans entendre des choses que je savais déjà par ailleurs parce que c'était sur la place publique à Bruxelles. Ça c'est autre chose. Le problème d'un traité comme le CETA, c'est que le modèle agricole sous-tendu derrière est un modèle d'agriculture intensive, industrialisée, qui est une calamité sur le plan écologique et qui par ailleurs n'a pas beaucoup non plus de sens en termes de qualité alimentaire, de qualité des produits qui sont fabriqués. Vous avez raison, madame, de dire qu'il y a eu un travail intéressant qui a été fait dans le cadre de cette commission, c'est vrai. Je pense que ce sur lequel on n'insiste pas assez, et nos propos ont beaucoup été caricaturés à cet égard, c'est que nous ne n'avons jamais dit que demain allait arriver du saumon OGM ou du poulet aux hormones. On a dit que le CETA était un instrument qui permettait à petit feu de faire évoluer la réglementation européenne et de contraindre et l'Union européenne et ses États membres à se débarrasser petit à petit des protections qui existent dans le domaine de l'alimentation et de la production de l'alimentation, des règles sanitaires autour de ça. Ça va prendre 10 ans, 15 ans peut-être, on ne va pas le voir tout de suite.
Mais c'est un risque réel. Est-ce qu'avoir cette approche, ça ne revient pas à considérer que finalement du côté européen, on serait particulièrement vertueux en matière de normes environnementales et sanitaires et que les grands méchants seraient canadiens? Mais est-ce qu'il n'y a pas du mieux-disant qui peut aussi arriver dans le cadre de ces accords de libre-échange, c'est-à-dire peut-être des choses qui sont meilleures au Canada qu'elles ne sont en Europe et dont on pourrait aussi bénéficier?
Alors si, il y a des choses qui sont très bien au Canada, effectivement, vous avez raison là-dessus. Par exemple, le système de régulation des prix du lait qui permettait aux producteurs canadiens de conserver un revenu en dépit des fluctuations des cours internationaux et à terme condamné par un traité comme le CETA, si vous voulez. Ça, c'était quelque chose de bien qu'on n'avait plus en Europe. Et le CETA est en train de le remettre en question. Donc, qu'il existe de chaque côté des choses intéressantes, c'est incontestable. Que des traités tels que ceux comme celui-ci puissent tirer vers le haut les normes, ça, c'est positivement pas possible. On n'a jamais vu ça.
Geneviève Baptiste-Burdeau, oui. Et ce sera la conclusion. Le CETA, c'est un accord cadre. Est-ce que ça permet justement à l'intérieur de continuer, alors si ce n'est à négocier, mais en tout cas à essayer de batailler, peut-être pour qu'on aille davantage vers du mieux-disant plutôt que vers du moins-disant. Est-ce que cet accord-là permet ce travail?
Théoriquement, oui. Il y a un dispositif institutionnel d'une sophistication extrême avec toutes sortes de commissions sur les différents produits. Et normalement, dans le cadre de ces commissions mixtes, on devrait discuter de ces questions. Mais le problème, si on prend le cas de l'agriculture, c'est par exemple, il y a des préférences sociétales en Europe qui ne sont pas partagées par le Canada. Par exemple, la protection du bien-être animal, c'est une notion qui, en Europe, s'est développée, mais qui est totalement ignorée au Canada. Vous avez des éléments de ce genre qui sont très différents. Et puis, l'autre crainte, c'est que au travers des concessions qui sont faites en matière d'importation de viande en Europe de la part du Canada, on ne donne à d'autres partenaires commerciaux, et notamment d'Amérique latine, des arguments pour obtenir une ouverture du marché européen qui serait beaucoup plus préjudiciable aux producteurs européens.
Eh bien, merci beaucoup à toutes les trois d'avoir participé à cette discussion. Amélie Cannon, Geneviève Baptiste-Burdeau et Emmanuel Buteau. Discussion que vous pouvez réécouter sur notre site internet franceculture.fr à la page du Grain à Moudre. J'ai quelques secondes pour vous signaler un rendez-vous important. C'est ce samedi, le forum Les Idées Claires dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne de 9h à 13h30. Une série de débats et de rencontres consacrés à la thématique des fake news, la science face aux fake news, et ce dans le cadre de la fête de la science. Pour vous inscrire, il suffit d'aller sur le site soit de France Culture, soit celui de la Maison de la Radio, maisondelaradio.fr. J'aurai le plaisir de vous y retrouver en compagnie de Nicolas Martin, d'Adèle Van Rett et d'Olivia Gesbert. C'est donc ce samedi de 9h à 13h30.